texte sur ce qu'est la bénédiction de Dieu. Vous savez que le mot bénédiction, c'est un mot qu'on entend très souvent. Je crois que c'est un des mots qu'on entend le plus souvent dans la bouche des chrétiens. Il nous arrive parfois, en tant que pasteur, quand nous prions pour les gens, parfois nous demandons aux gens dans certaines églises de s'avancer devant pour qu'on prie avec elles. Et il m'est arrivé souvent de demander aux gens pourquoi elles voulaient qu'on prie pour elles. Et les gens me disaient simplement « Je voudrais que Dieu me bénisse ». Tout simplement. « Je voudrais que Dieu me bénisse ». Il y a des gens qui cherchent avant tout la bénédiction de Dieu et sans trop savoir parfois ce qu'est vraiment la bénédiction de Dieu. Est-ce que Dieu passe son temps à bénir ? Oui, certainement, Dieu bénit. Dieu fait du bien, c'est un des sens du mot bénir. Est-ce que Dieu nous accorde sa grâce, sa faveur, sa protection ? Oui, certainement. Mais comme nous allons le voir dans quelques instants, la bénédiction, ce n'est pas quelque chose que Dieu donne comme cela de n'importe quelle manière. Il y a dans la Bible, et nous n'aurons pas le temps de les lire cet après-midi, de très nombreux textes qui parlent de la bénédiction de Dieu. Et puis nous nous arrêterons, bien sûr, pour finir sur le cas de, sur l'histoire de Joseph, qui d'après ce que nous avons lu, si vous avez lu le texte attentivement pendant qu'il était lu il y a quelques instants, nous montre que au travers d'une expérience, on pourrait même dire d'une vie, qui dans sa première partie a été une vie très difficile, nous reviendrons sur cela tout à l'heure, mais vous savez que Joseph avait eu, quand il était jeune, des rêves de, on pourrait dire des rêves de grandeur, des rêves qui lui laissaient penser qu'un jour il deviendrait quelqu'un d'important. Le problème, c'est que pendant les années qui ont suivi, peut-être 10, 15 ans, tout ce qu'il a vécu, c'est le contraire de la grandeur. Il a d'abord été vendu comme esclave, il a été acheté par un maître, chef de maison en Égypte, et puis vous savez que suite à ce qui lui est arrivé, aux mésaventures qu'il a eues, ou plutôt à son refus de commettre des choses mauvaises, il s'est retrouvé en prison. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on attend quand on a eu des rêves de grandeur. Mais nous verrons tout à l'heure que malgré cela, Joseph a eu une chose, a eu droit à une chose que la Bible appelle l'essentiel, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu. Et nous verrons que même des fois dans des situations très très difficiles, nous pouvons être assurés par la Bible que nous vivons dans la bénédiction de Dieu. Alors, dans la Bible, il y a de nombreux textes qui parlent de la bénédiction de Dieu. Dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, il nous est dit que dans bien des circonstances, des hommes qui avaient été choisis par Dieu, bien sûr, je pense notamment aux prêtres, aux sacrificateurs, prononçaient des paroles de bénédiction. Mais des paroles de bénédiction, il n'y avait pas que les prêtres qui en prononçaient. Le prêtre, par exemple, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, au moment d'offrir les animaux en sacrifice pour Dieu, pour le pardon des péchés ou pour d'autres choses, le prêtre prononçait une bénédiction sur l'animal qui était sacrifié. Par exemple, au temple, dans le culte du peuple d'Israël, on le voit dans la Bible, ou dans le livre des Nombres, par exemple, le prêtre terminait toujours le culte par une bénédiction pour tous ceux qui assistaient au culte. Un peu comme à la fin du culte, ici, nous allons tout à l'heure prier la prière de bénédiction finale. Il y avait aussi les rois qui bénissaient le peuple. On voit par exemple le roi Salomon, quand il a inauguré le nouveau temple, le temple de Jérusalem, a prononcé une parole de bénédiction, donc à l'égard de tout le peuple qui se rassemblait dans le temple. On voit dans la Bible que, par exemple, lorsque les parents ou les amis voyaient des amis qui repartaient en voyage après les avoir visités, ils prononçaient sur eux des paroles de bénédiction pour leur voyage, pour la suite de leur voyage. On prononçait aussi des paroles de bénédiction sur ceux qui se mariaient. En fait, toutes ces paroles avaient pour but d'assurer, de souhaiter, parce qu'elles étaient parfois simplement des souhaits, mais elles avaient pour but, d'accorder aux personnes sur lesquelles on prononçait la bénédiction une certaine protection de Dieu, un certain bien-être. La bénédiction de Dieu, très souvent, elle a le sens de protection, de prospérité, de bonne santé. Il y a un texte intéressant dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, versets 2 et 3, où, vous savez, lorsque Dieu appelle Abraham à quitter son pays et la famille de ses parents pour partir dans un pays qu'il lui montrerait plus tard, Dieu a demandé à Abraham de quitter sa famille. Il dit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham a été béni d'abord parce qu'il a obéi à Dieu. Nous allons voir cet après-midi que l'une des conditions pour avoir la bénédiction de Dieu, pour que la bénédiction ou la main de Dieu repose sur nous, c'est tout d'abord d'écouter Dieu et de lui obéir. Ça a été la caractéristique principale de la vie de Joseph. Mais ici, nous voyons que quand Dieu appelle Abraham, il lui promet, s'il lui obéit, et bien sûr nous savons qu'Abraham a obéi, il a quitté la maison de son père, puis il est parti, il s'est arrêté dans un premier pays qui s'appelait le pays de Charan ou de Haran, et puis là, Dieu lui a parlé à nouveau, et Abraham est reparti, et il est parti pour le pays que Dieu lui a montré. Et lorsqu'il est arrivé dans ce pays, Dieu lui a dit « Tout ce pays, je te le donne à toi et à toute ta postérité, à tous tes enfants, tes petits-enfants et arrière-petits-enfants, etc. etc. » Pourquoi ? Parce qu'Abraham avait cru la parole de Dieu. Il avait cru en laissant derrière lui toute sa famille, enfin ses parents surtout, toute sa famille, et en partant avec sa femme Sarah, il avait cru que Dieu allait vraiment lui montrer un pays. Et comme il est parti sans savoir dans quel pays il partait, Dieu l'a béni en lui faisant trouver ce pays et en lui accordant ce pays. Vous savez que ce n'est pas très naturel pour un homme de faire cela. Est-ce qu'il vous arrive souvent de prendre votre voiture, de partir, et si quelqu'un est avec vous et vous demande « Où est-ce qu'on va ?» Vous répondez « Je ne sais pas. On y va. Je ne sais pas où on va, mais on part. » En général, quand on part, on a une idée de l'endroit où on va. On a même, je crois, aussi une idée du chemin que l'on va suivre. Mais Abraham est parti et il a suivi la direction que Dieu lui donnait sans savoir où il partait. Et il est parti pour un pays qu'il ne connaissait pas. Il l'a découvert. Parfois on dit Abraham était un Israélite, Abraham était un Hébreu. Non, ce n'était pas un Hébreu. Il est né à des milliers de kilomètres du pays d'Israël, dans un pays qui s'appelait à l'époque, si je me rappelle bien, la Mésopotamie. C'était un Mésopotamien. Aujourd'hui, on dirait que c'était un Irakien, puisque c'est à peu près le même pays, avec un autre nom. Abraham n'était pas un Hébreu. Il est parti parce que Dieu lui a parlé. Et ensuite, il s'est installé dans ce pays. Et ses descendants ont été appelés les Hébreux. Mais Abraham n'était pas un Hébreu. Abraham, c'est la parole de Dieu qu'il dit, adorait d'autres dieux. Il adorait de nombreux dieux comme on les adorait dans la Mésopotamie ancienne, antique. Mais il a entendu la voix de Dieu, il a suivi la direction que Dieu lui donnait. Quelle que soit notre origine, nous le voyons ici, quelle que soit notre origine, quels que soient les dieux que nous avons adorés avant, nous pouvons trouver la voie du vrai Dieu parce qu'il veut se révéler à nous. La bénédiction qu'Abraham a vécue, c'était une bénédiction dans tous les domaines de la vie. Plusieurs textes nous le disent. Il y a un texte dans Genèse chapitre 13, je vais en lire juste quelques-uns, pas tous. Dans Genèse chapitre 13, verset 2, il est dit par exemple, Abraham, après avoir obéi à Dieu, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il avait beaucoup de troupeaux, il avait beaucoup d'argent et il avait beaucoup d'or. Cela nous montre qu'Abraham, qui était parti certainement sans beaucoup de choses de son pays natal, Abraham a été béni par Dieu, et la bénédiction de Dieu veut dire entre autres, mais pas exclusivement cela. Je dis cela parce que certains pensent des fois que quand on est riche, c'est parce qu'on est béni par Dieu. On peut être riche. Et ça peut être la bénédiction de Dieu. Tout dépend, bien sûr, comment on a acquis ses richesses. Celui qui devient riche en faisant un commerce non conforme aux lois ne peut pas dire « c'est Dieu qui m'a béni ». J'ai trafiqué, je suis devenu riche, c'est la bénédiction de Dieu. Non, ça, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Ça, c'est la débrouillardise peut-être de l'homme, ça, c'est le vice de l'homme, mais ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Abraham était riche parce que Dieu l'avait béni, parce qu'il obéissait à Dieu. C'était son cas, lui. Tous ceux qui obéissent à Dieu ne deviennent pas riches. Sinon, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de monde dans les églises. Aujourd'hui, pas seulement ici, mais partout ailleurs, les églises seraient pleines le dimanche matin et le dimanche après-midi si le simple fait de croire en Dieu faisait devenir riche. La bénédiction d'Abraham, c'était aussi une bénédiction spirituelle, comme nous le lisons dans Genèse chapitre 21, verset 22. En ce temps-là, Abimélec, accompagné de Picol, chef de son armée, parla aussi à Abraham. Dieu est avec toi. Il lui dit, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Ceux qui étaient les voisins d'Abraham, ses amis, ceux qu'il côtoyait au quotidien, ceux qui habitaient dans la même région, ont constaté qu'Abraham vivait quelque chose de particulier. Et ce particulier, cette chose particulière, cet homme, Abimélec, l'un de ses voisins, lui a dit, c'est Dieu qui est avec toi, je le vois parce que Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, ça marche. Alors, encore une fois, je dois le préciser, c'est parce que Abraham obéissait à Dieu. C'est vrai qu'on dit des fois de certaines personnes, tout ce qu'il touche, il le transforme en or. Il y a des gens comme cela. Oh, ils ne sont pas trop nombreux. Mais il y a des gens comme cela qui ont, certains disent, une chance particulière. Quel que soit le domaine dans lequel ils se lancent, ça réussit. Parfois, c'est parce qu'ils font bien les choses, mais parfois aussi, c'est parce qu'ils ont des manières tout à fait particulières et personnelles de se débrouiller. Mais là, il s'agit de faire vraiment les choses comme Dieu le veut, d'obéir à Dieu. Dieu est avec toi. Hein, on ne dit pas ça à tout le monde. Quand quelqu'un réussit dans tout ce qu'il fait, on ne dit pas toujours « Dieu est avec toi », parce que parfois, c'est des gens qui ne croient pas en Dieu. Mais Abraham croyait en Dieu. Abraham suivait Dieu fidèlement. Et Dieu l'a béni d'une manière particulière, à tel point que ceux qui le côtoyaient ont dit « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais ». J'insiste sur cette parole parce que nous la retrouverons dans l'histoire de Joseph. Et dans tous les domaines, même dans le domaine de la vie en société, Abraham était béni parce que la bénédiction de Dieu peut aller dans tous les domaines de la vie. Quand Dieu nous bénit, Dieu peut bénir nos relations. Nous lisons dans le chapitre 23, verset 6, que lorsqu'Abraham a voulu enterrer sa femme, Sarah, qui est morte avant lui, bien qu'elle fût plus jeune que lui, Abraham a sollicité de ses voisins un tombeau qu'il voulait acheter. Et ses voisins lui ont dit, tu peux prendre ce que tu veux, tu peux choisir ce que tu veux, aucun de nous ne te refusera un tombeau pour y enterrer ta femme. Parce qu'Abraham avait trouvé grâce auprès de tous ses voisins, parce qu'il avait un comportement qui honorait Dieu. Dieu accorde sa bénédiction à tous ceux qui marchent avec lui, qui lui obéissent. Il y a un texte intéressant que nous lisons dans le livre du Deutéronome, chapitre 28. Lorsque Moïse a rassemblé le peuple d'Israël, qui va entrer dans la terre promise dans quelque temps, Dieu dit au peuple d'Israël, Moïse dit au peuple d'Israël, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, là où tu habites. » C'est moi qui rajoute. « Et tu seras béni dans les champs, et j'ajoute, là où tu travailles. » Le fruit de tes entrailles, tes enfants donc, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, ta ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Dieu ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays qu'il te donne. Tu seras pour Dieu un peuple saint lorsque tu observeras les commandements de Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Et tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Ici, nous voyons que quand Dieu dit qu'il veut bénir ceux qui croient en lui et qui lui obéissent, cette bénédiction est générale. Elle concerne toute la vie. Vous voyez les expressions qui sont employées, qui énumèrent les différents aspects de la vie du croyant, aujourd'hui on dirait du chrétien. Le but de Dieu, c'est de nous bénir dans tous les domaines de notre vie. Il n'est pas un domaine de notre vie qui échappe à la bénédiction que Dieu veut donner. Dieu veut nous bénir dans notre famille, dans notre vie familiale, il veut nous bénir dans notre travail, ou si on est jeune comme vous, dans les études. Il veut nous bénir pendant que nous voyageons. Il veut nous bénir dans tous les domaines de notre vie. Et quand nous sommes mariés plus tard, que nous avons des enfants, il veut nous bénir au travers même de nos enfants. En quelque sorte, Dieu veut prendre toute notre vie entre ses mains et la bénir, c'est-à-dire faire qu'elle se passe bien et qu'il soit en quelque sorte notre accompagnateur. Le sens profond de la bénédiction, c'est cet accompagnement que Dieu propose à tout croyant qui veut obéir à sa parole. L'exemple de Joseph, c'est par cela que j'aimerais illustrer cette prédication et ce thème. L'histoire de Joseph, comme nous le voyons tout à l'heure, est une histoire très intéressante. Je l'ai dit, Joseph avait pour père Jacob, il avait 11 frères et certainement des sœurs. Et Joseph a eu, quand il était jeune, donc des rêves. Et peut-être qu'il a commis l'erreur de raconter ses rêves à ses frères. Il faut dire que Joseph était le 11e enfant d'une famille de 12. Et vous savez, quand un petit frère, il y en a qui ont un petit frère là parmi nous, levez la main. Allez, levez la main. C'est bien d'avoir un petit frère. Moi, j'ai un petit frère. Et j'en ai eu 3 grands, donc j'étais plus martyrisé que martyrisant. Bon, voilà. Alors, vous savez, quand on a un petit frère, c'est une chose, mais est-ce qu'il y en a qui ont des grands frères maintenant ? Ouais, il y en a qui ont aussi bien le petit que les grands. Alors, maintenant, je m'adresse à ceux qui ont des grands frères. Est-ce que vos grands frères vous ont bien traité ? Hein, je crois qu'on peut dire ça comme ça, oui. Moyennement. Moi, j'ai un grand frère, j'en ai même plusieurs. Il m'en reste 2 sur 3. Et celui qui est le plus proche de moi par l'âge, je peux dire qu'à une certaine époque, il nous martyrisait un peu, moi et puis mon petit frère. Il faut dire qu'il était un peu plus grand et il était plus âgé. Il avait surtout des bras un peu plus longs. Vous savez, avoir le bras un peu plus long, hein, si par exemple vous faites de la boxe, c'est très pratique, un bras plus long. Hein, l'autre, il peut toujours essayer, il n'arrivera pas. Hein, parce que son bras arrive que là. Si vous voulez donner des petits coups. Pour tous les niveaux, c'est intéressant physiquement d'être le grand frère de quelqu'un. Moi, je n'ai pas eu de chance parce que mon petit frère faisait la même taille que moi. Il n'avait que 14 mois de moins. Il avait la même force, on courait aussi vite. Donc, je ne pouvais pas trop profiter de la situation. Hein. Bon, alors quand on se bagarrait, ça terminait par des pleurs, mais des deux côtés. Aussi bien l'un que l'autre, parce qu'on se faisait aussi mal l'un que l'autre. On avait les bras aussi longs, on était très jaloux l'un de l'autre. Et alors, bon, ça se terminait mal, mais bon, on n'insistait pas trop longtemps non plus. Mais Joseph était le petit frère. Il avait un petit frère, mais il en avait 10 plus grands que lui. Or, il lui est arrivé un jour, et nous savons d'après la Bible que c'était Dieu qui était derrière ses rêves. Il lui avait donné un petit avant-goût de ce qui allait lui arriver un jour. Alors, quelquefois, c'est bien de savoir quelle est la suite de l'histoire. Ça aide. Je pense que Dieu avait bien fait les choses en donnant à Joseph une idée de ce qui lui arriverait plus tard en lui disant « Un jour, tu seras grand. » pas seulement physiquement. Hein. Un jour, tu deviendras quelqu'un de fort et de puissant. Et lui avait même fait une révélation que je pense que Joseph aurait dû garder pour lui. Vous savez que tout ce que Dieu nous dit ne doit pas être forcément partagé avec les autres. Il y a des choses que nous devons partager avec les autres. Mais quand on nous dit quelque chose, parfois il vaut mieux garder le secret, puis attendre que le moment venu les choses se passent. Imaginez simplement qu'il aurait raconté ses rêves et que ce ne serait jamais arrivé. Il aurait été la moquerie. Mais ses rêves sont arrivés parce qu'ils venaient de Dieu. Joseph a rêvé qu'un jour il serait grand et que ses frères se prosterneraient devant lui. Alors évidemment, si vous êtes le grand frère et que vous racontez ça à vos petits frères, ça va encore. Mais si vous êtes le petit frère et que vous racontez à vos 10 grands frères, il y en aurait un encore, ça va, mais 10 grands frères, un jour, les grands, vous serez tous à genoux devant moi. Et comme Joseph, apparemment, était tout content de raconter ses rêves à ses grands frères, il a préparé un chemin douloureux. Vous savez, Joseph aurait pu ne rien dire du tout. Mais il s'est trouvé qu'il a raconté que le fait d'avoir raconté cela a créé dans le cœur de ses frères, bien sûr, beaucoup de jalousie. Surtout que le papa, dans cette histoire, ne faisait peut-être pas les choses non plus comme il fallait. Figurez-vous que, comme ça se passe des fois dans certaines familles, mais ce n'est jamais une bonne chose, le papa avait affiché clairement sa préférence. Parmi les 11 garçons, il y en a eu un 12e après, parmi ces 11 premiers, il a dit « Mon préféré, c'est le 11e ». Alors vous imaginez les grands frères. Déjà que le petit en rajoutait un peu trop, se vantait trop, le père a carrément dit « C'est mon préféré, le petit 11e ». Ben, c'est le plus petit, c'est le plus mignon, c'est le tout nouveau, c'est le petit bébé, etc. Bon, le bébé a grandi quand même. Et puis comme le père voulait que tout le monde sache que c'était son préféré, il lui a préparé une tunique, une robe, comme les hommes en portaient à l'époque, plus belle que toutes. Alors vous imaginez ce Joseph qui se promenait, le petit frère là, avec sa belle robe, sa belle tunique devant tout le monde, et les frères qui avaient une robe tout à fait standard, peut-être achetée chez Tati ou je ne sais où, à bas prix, et lui il avait sa robe des magasins de luxe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le manque de sagesse peut-être de Joseph, mais le manque de sagesse du père a créé dans le cœur des grands frères un problème profond de jalousie qui s'est envenimé au fil des années. D'autant plus que le père a eu un 12e fils et qu'apparemment le 12e, on n'était peut-être pas préféré à Joseph, mais c'était aussi le petit préféré du papa. Donc les deux derniers étaient les préférés et les 10 autres, ils prenaient ce qui restait. Alors un jour est arrivé ce qui devait arriver. Les frères se sont vengés. Ils étaient tellement irrités par le comportement du père et du fils qu'ils ont pris le fils, Joseph, et l'ont vendu, carrément, comme esclave. Joseph, qui avait eu des rêves de grandeur, aurait pu se dire à ce moment-là, mais je ne comprends rien. Je croyais que j'allais devenir grand. Je croyais que j'allais dominer sur mes frères. Et c'est eux qui m'ont vendu, je suis maintenant esclave. Et eux sont tranquilles à la maison. Et puis, Joseph, dans la maison où il était, a fait la connaissance de Madame, comment s'appelait l'homme déjà ? Potiphar. De Madame Potiphar. Et Madame Potiphar avait un comportement qui n'était pas forcément glorieux de sa part à elle. Mais bon, elle ne voyait que ce qu'elle voyait. Elle a vu un beau jeune homme, elle a dit « Celui-là, il est pour moi ». Sauf que Joseph a dit non. Pourquoi ? Et c'est là l'aspect plus intéressant de notre histoire. Premièrement, Joseph, dans la maison de son père, avait entendu parler de Dieu. Son père, Jacob, avait pour grand-père, qui ça ? Qui c'était le grand-père de Jacob ? Papy Abraham, bien sûr. Donc, le grand-père, c'était Abraham, qui avait élevé ses enfants et ses petits-enfants dans la connaissance de Dieu. Joseph, qui était l'arrière-petit-fils d'Abraham, connaissait la parole de Dieu. Et ce qui est important, c'est que dans ces épreuves, Joseph a continué à faire confiance à Dieu. Il avait certainement la conviction que ses rêves, ce n'était pas lui qui les a fait fabriquer. Ces rêves-là étaient trop bizarres. Ils étaient trop anormaux à l'échelle humaine. Il s'est dit, si j'ai eu ces rêves, c'est parce que Dieu a un plan pour moi. Dieu a un plan dans ma vie. Alors je vais y croire à ce plan. Je vais continuer à vivre en étant fidèle à Dieu. Et lorsque la femme de Potiphar s'est présentée, il lui a dit non. Pourquoi ? Parce qu'il savait que ce n'était pas moral. Il savait que ce n'était pas moral. Nous l'avons lu tout à l'heure. Dieu dit, si tu obéis à la voix de Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, je te bénirai dans tous les domaines. Joseph, et c'est là le secret, Joseph a obéi à Dieu dans tous les domaines de sa vie. Il n'a jamais protesté. Il a continué à marcher avec Dieu. Et nous lisons que dans la maison de Potiphar, quand il était esclave, l'Éternel fut avec Joseph. Et plus tard, quand Joseph s'est retrouvé en prison, nous lisons, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sa main sur lui. Et une dernière phrase qui est assez exceptionnelle, quand on voit que Joseph était en prison, l'Éternel, alors que Joseph était en prison, l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Pouvez-vous imaginer un instant qu'un homme puisse avoir de la réussite en prison? Comment peut-on avoir de la réussite en prison? Eh bien, c'est la Bible qui le dit. La réussite, quel que soit l'endroit où nous sommes, c'est la bénédiction de Dieu, la présence de Dieu. Et l'une des grandes leçons de la parole de Dieu, c'est que la bénédiction de Dieu ne repose pas dans la réussite aux yeux des hommes. En étant riche, elle peut en faire partie, la bénédiction. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel dans la vie, c'est d'obéir à Dieu afin que Dieu reste avec nous, quels que soient les événements qui nous arrivent. On peut vivre la bénédiction de Dieu même quand on est en prison. Bien sûr, la bénédiction de Dieu, dans ce cas-là, ce n'est pas le fait d'être en prison. Mais même s'il faut passer par la prison, en marchant dans les voies de Dieu, je précise, même s'il faut passer par les endroits les plus sombres et les plus terribles de la vie, la bénédiction de Dieu peut être avec nous si nous continuons à l'honorer, à lui obéir et à avancer en lui faisant confiance. Que le Seigneur nous aide afin que nous apprenions à regarder ce qui nous arrive, tous les événements de notre vie, dans la mesure où nous marchons dans l'obéissance à Dieu. Apprenons à regarder tout ce que nous vivons, même les événements parfois les plus difficiles, comme des événements dans lesquels nous pouvons garder la bénédiction de Dieu, parce que la bénédiction de Dieu ne réside pas dans ce que nous vivons, mais dans le fait qu'il reste avec nous, comme il est resté avec Joseph, et lui a permis ensuite de sortir de prison et de vivre ce qu'il avait rêvé quand il était jeune, c'est-à-dire de monter en puissance dans le pays où il était, et de voir ses frères venir un jour devant lui et s'incliner devant lui, comme Dieu le lui avait montré. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à lui obéir et à rester assurés de sa bénédiction dans toutes les circonstances de notre vie. Amen.